Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 17 janvier 1991.
Posée sur la différence du vécu et de l'opération vitale prise en elle-même. Je ne réponds pas maintenant, et ce sera quand il y aura des questions. Je reprendrai cette question-là parce que c'est une question de méthode, c'est très important. C'est pas du tout pour la négliger. Alors, nous allons essayer d'entrer cette philosophie du vivant, en comprenant que la première question qui se pose, qu'est-ce que c'est que le vivant? Il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Quelle différence y a-t-il entre le vivant et le non-vivant? Vous voyez, la première question qui se pose en philosophie de la nature. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est mu naturellement et celui qui est mu artificiellement? C'est pas la même chose. Autrement dit, la philosophie de la nature s'oppose toujours humain. Notre monde naturel est revêtu de l'œuvre humaine, et plus on avance, plus c'est difficile de retrouver la nature. Ce que Nietzsche souligne, dans les villes, on ne retrouve plus la nature. Au désert, il faut aller à l'océan, il faut aller à la montagne, très haut, pour que on retrouve quelque chose qui soit fondamental et premier. Et c'est vrai, ça. On voit de plus en plus que l'homme chasse les éléphants. Les éléphants sont obligés de se réfugier dans des forêts équatoriales, des forêts dans lesquelles l'homme ne pénètre pas. C'est un petit signe. Mais c'est sûr que la philosophie de la nature est toujours face à l'œuvre de l'homme, l'œuvre artistique, la transformation de l'univers par l'homme. L'homme fait un ciel nouveau et une terre nouvelle. Du moins, il tend à le faire. C'est qu'un vêtement. On met un petit habit au chien. Et le chien est cultivé par le fait même qu'il a un petit habit. Un petit habit au chat. On lui a coupé sa moustache. Ça fait partie de la transformation du monde animal. Et la philosophie du vivant se fait à l'intérieur de l'être naturel pour voir qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de très particulier à la philosophie du vivant, c'est qu'elle se fait à partir de l'homme. Tandis que la philosophie de la nature se fait face à l'univers. Il y a là tout de suite deux aspects tout à fait différents. L'aspect quantitatif l'emporte dans la philosophie de la nature, puisque c'est l'univers. Et l'aspect qualitatif, cette situation privilégiée de l'homme par rapport au vivant, c'est qu'il peut saisir de l'intérieur l'opération vitale, la conscience. J'ai conscience de parler. Et la parole est une opération vitale. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de prendre mon petit déjeuner. J'ai conscience de m'éveiller. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout de suite, on pourrait dire que dans ces deux parties de la philosophie, on essaie de saisir ce qu'il y a de fondamental dans le regard sur l'univers, ce qu'il y a de commun dans le regard sur tout l'univers, et je découvre la phusis, la nature. Tandis qu'au contraire, dans la philosophie du vivant, je ne regarde pas ce qu'il y a de commun dans le règne du vivant. Je le sais, mais regardez l'animal de l'extérieur, regardez la plante de l'extérieur, ce n'est pas saisir la vie de la plante, la vie de l'animal. C'est pour ça que je commence tout de suite par ce vivant parfait, le plus parfait que je connais, l'homme. La philosophie grecque a commencé par ces deux aspects. Il y a eu les physiciens qui ont regardé l'univers et les pythagoriciens qui ont regardé l'homme religieux. Alors, ici, je vais au-delà de l'homme religieux, au-delà de l'éthique, pour saisir quel est le fondement de l'éthique et le fondement de l'homme religieux. C'est le vivant. Et normalement, la philosophie du vivant présuppose l'éthique religieuse, pythagoricienne, et l'éthique de l'amour d'amitié. Puisque dans l'amour d'amitié, il y a un phénomène extrêmement blessant. C'est que mon ami peut mourir avant moi. La mort de l'ami montre la limite de l'éthique. Quelque chose qui brise là et qui montre qu'il y a un regard plus fondamental sur l'homme qui est exigé par l'éthique, par l'expérience de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié ne scrute pas l'homme dans tout ce qu'il a de plus radical. Il faut découvrir le vivant, puisque c'est le vivant qui meurt. Ce n'est pas l'ami comme ami qui meurt. L'ami ne meurt pas, tandis que l'ami, en tant qu'il est vivant, meurt. Il faut donc essayer d'aborder par la mort. Vous voyez l'aspect négatif. C'est cet aspect négatif de la mort qui exige de poser la philosophie du vivant. Mon amour pour mon ami ne lui permet pas de dépasser la mort. Alors que l'amour que j'ai pour lui est au-delà de la mort. Et donc je saisis là que l'amour d'amitié, si profond qu'il soit et si radical qu'il soit, n'est pas cependant ce qu'il y a de plus radical dans l'homme. Il y a quelque chose de plus radical dans l'homme qui échappe à l'amour d'amitié, qui est le vivant. L'homme en tant que vivant échappe à l'amour d'amitié. Par Par là, je me pose un nouveau problème. Là, dans l'amour d'amitié, je suis source. Puisque grâce à l'amour que j'ai pour mon ami devient l'ami. Il faut cette réciprocité. Il y a quelque chose qui échappe à mon amour. C'est justement que mon ami est un vivant. Et la vie de mon ami est au-delà de l'amour que j'ai pour lui. Alors qu'est-ce que c'est que le vivant ? Qu'est-ce que c'est que l'homme en tant que vivant ? Et poser bien le problème à partir de la mort de l'ami. C'est truc dur. Et ça, c'est très actuel, vous voyez, parce que dans la philosophie actuelle, la mort joue un rôle très important. C'est l'aspect négatif de la modernité. Et là, nous avons tout à fait, j'allais dire, le droit d'assumer ça. Et je crois que ça montre bien le problème du vivant. Parce que la mort est une rupture radicale à l'égard de l'amour d'amitié. Et donc, la mort me pose un problème. Qu'est-ce que c'est que ce vivant qui peut mourir ? Qu'est-ce que c'est que ce vivant connaître cette rupture très fondamentale en lui, cette brisure qui est la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Posez-vous bien la question, c'est très important de toujours voir l'interrogation dans toute sa force. Parce que si on ne voit pas l'interrogation dans toute sa force, on n'avance pas. L'idéaliste n'interroge plus. Comme nous avons horreur de l'idéaliste qui en nous plane tout le temps. Quelquefois, il a des ailes d'aigle et qui cache tout. Il faut redécouvrir l'interrogation première que je pose sur le vivant. Qu'est-ce que je suis comme vivant ? Puisque ce que je suis comme ami n'explique pas ce que je suis comme vivant. Il faut donc savoir ce que c'est que le vivant. Le vivant, l'homme vivant, moi-même comme homme vivant, qu'est-ce que je suis ? Je voudrais saisir la source de ma vie, d'où ça vient, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui fait que je suis un être distinct de cet univers dans lequel je suis, qu'est-ce qui me permet d'avoir cette autonomie par rapport à l'univers dans lequel je suis. Cet univers dans lequel je suis, au point de vue de l'extension, au point de vue de la quantité, il m'enveloppe complètement. Je ne suis pas grand-chose à côté de lui. Je me souviens d'une conférence d'un astronome qui lui à la fois l'univers dans toute sa taille. Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant. L'astronome aide à comprendre ce que c'est que la nature et aide à comprendre ce que c'est que le vivant. Il concluait toute sa vision de l'univers en tant qu'astronome. L'homme, pour l'astronome, apparaît comme un peu de poussière. Poussière je suis, poussière je retournerai. Vision de l'astronome, vision de sagesse chrétienne. ça, il avait terminé, c'était pas un croyant, tu vois. C'était quelqu'un qui avait respect de la foi chrétienne, mais il disait, je ne suis pas un croyant. Et mon regard d'astronome me met toujours en face de quelque chose d'infini. Et face à ça, qu'est-ce que je suis? La longitude, je dirais la manière d'être des astres, la figure des astres, comparativement à l'homme, fait qu'on apparaît comme petite fourmi, pas grand-chose. La taille de l'homme, comparativement à ses dimensions énormes et infinies. Et c'est vrai, on comprend très bien ça, ce regard-là. Eh bien, face à cet univers qui m'enveloppe, qui m'écrase d'une certaine manière, je suis écrasé par ces chiffres astronomiques. Je suis pourtant un vivant capable de s'orienter, capable, même s'il n'est que poussière, d'une petite poussière vivante, s'oriente à la différence de la fourmi. Parce que les fourmis, de temps en temps, portent des poids énormes qui sont plus gros qu'elles ne sont. Quand elles rentrent dans leur fourmilière, c'est très curieux. Mais elles font tout le temps le même trajet. Tandis que l'homme, non. Même si on est tout petit, il y a qualitativement quelque chose d'autre que ce monde physique. Alors les savants diront tout de suite l'entropie et le point de vue du vivant. Le monde physique va à sa perte. Le monde vivant va à sa victoire. En gros, c'est ça. Il y a une descente et une montée. La vie monte. C'est pas la vie montante, mais la vie monte. Et la matière descend. Curieux, ce regard scientifique, hein. C'est intéressant de poser le problème de cette manière, la mort et la vision des savants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vivant, si petit et si grand, si indépendant et si dépendant? On voit très bien, grandeur et fragilité de l'homme. Ce roseau pensant, on trouve des paroles extrêmement importantes là-dessus. Oui, encore plus bas que le roseau. Le roseau pensant, c'est pour le poète, la petite poussière animée, c'est pour l'astronome. Alors l'homme doit penser à cela. Qu'est-ce que je suis? Quelle est la source, autant que je peux la saisir, de mon être vivant? Je constate tout de suite la très grande diversité de mes opérations vitales et en même temps l'unité radicale. C'est toujours moi. Je mange, je m'éveille, je travaille, je suis blessé, je suis dans la joie, je pense, j'aime. Et à tout de suite, je. C'est très important de voir ça. Il y a une unité. Je ramène tout à moi. Je ne regarde pas ça au point de vue moral. Je le constate au point de vue philosophique. Le vivant a une force égocentrique d'une puissance qui lui permet de lutter contre l'entropie, contre la destruction du physique. Je remonte tout le temps. Et je le constate, du reste, d'une manière étonnante. Quand je regarde la vie en dehors de l'homme, le grain de blé qui produit d'autres grains de blé, le vivant a une puissance de conquête invraisemblable. Le vivant est un conquérant. Tout de suite, je le constate par rapport au monde physique. Le monde physique écrase, et le vivant, quand je regarde dans une montagne, vous voyez, et que je vois progressivement, je monte la vie diminue. Il n'y a que certaines espèces de vivants, de vie végétative, qui peuvent vivre à une certaine altitude. L'homme pourrait vivre beaucoup plus haut, mais en se mettant à l'abri, en se construisant un abri. C'est comme il peut vivre au pôle Nord, en se construisant un abri. Et autrement, il ne pourrait pas passer une nuit sans abri au pôle Nord ou tout en haut d'une montagne. Il ne resterait pas très longtemps. Parce qu'on s'abrite quand même toujours, on a un vêtement. Et un vêtement, quelquefois, extrêmement chaud, n'est-ce pas ? De fourrure. C'est l'animal qui vient protéger l'homme. Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qui est l'unité, source d'unité dans cette diversité. C'est là où progressivement j'induis mon âme. Il y a en moi une source cachée. L'unité qui fait l'unité de la complexité invraisemblable du vivant et de ce vivant qui est l'homme. C'est cette complexité qui frappe le plus le philosophe, le savant et le philosophe. Qu'est-ce qui frappe le plus quelqu'un comme Teilhard ? C'est la complexité de l'homme. C'est l'animal le plus complexe. Et c'est l'animal le plus humain, puisqu'il a conscience de son unité. Cette conscience de l'unité dans la complexité me permet de comprendre qu'il y a dans l'homme ces deux aspects, l'extériorité et l'intériorité. Et l'intériorité porte l'extériorité. Et l'extériorité cache l'intériorité. Alors je peux dialoguer assez longtemps sur l'intériorité et l'extériorité. C'est important au point de vue descriptif. Ce n'est pas encore philosophique, c'est pré-philosophique, mais c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est toute la phase qu'on pourrait dire phénoménale. Une phase phénoménale en moi qui est l'intériorité et l'extériorité. Comme je me regarde dans la glace, je me dis c'est comme ça que les autres me voient. Tandis que moi-même je corrige tout de suite mon visage par l'intériorité. Je peux sourire. Ça illumine mon visage terne qui est sans sourire. Je peux ouvrir les yeux et les fermer, faire des petits clins d'œil à la glace. Et la glace répond. Intériorité, extériorité. Mon corps est animé. Il est habité. À la différence du cadavre. Le cadavre n'est plus habité. Et la mort. Je crois que c'est très important dans cette phase inductive de bien comprendre ce point de vue de l'intériorité et de l'extériorité du vivant. Et que dans toute opération vitale, je trouve intériorité, extériorité. Et plus je m'élève dans la vie, dans les degrés de vie, dans la hiérarchie vitale, plus l'intériorité domine et l'emporte. La vie, c'est la victoire de l'intériorité sur l'extériorité. Et quand je me laisse aller, je ne suis plus qu'un être extérieur. Il n'y a plus d'intériorité. Et je comprends très bien aussi que le vivant, que toutes mes opérations vitales se réalisent dans un certain milieu. Il y a des milieux qui favorisent l'intériorité et des milieux qui favorisent l'extériorité. La ville est le désert. Et je suis un être dépendant de tout cela. Ça fait partie, vous voyez, de cette induction, cette phase première. Comment se fait-il que j'ai besoin d'un milieu et en même temps, le milieu, je peux le transformer. J'utilise mon milieu. Et le milieu me conditionne. Et le milieu peut être pour moi un merveilleux tremplin pour arriver à quelque chose de beaucoup plus intérieur et de beaucoup plus profond. Et je me pose alors la question, qu'est-ce qui fait cette unité en moi? Et qu'est-ce qui me permet d'avoir dans cette diversité si grande la pensée et le petit déjeuner. La pensée et le fait de dormir et d'être éveillé. Qu'est-ce qui fait cela? Alors progressivement, je découvre ce principe immanent. De là que je pose ce principe d'unité dans toute ma vie humaine, dans toute la diversité de mes opérations vitales. Et cette source, on l'a appelée l'âme. Les traditions religieuses l'ont appelée l'âme. Et je vois bien que ça correspond à ce que les traditions religieuses appellent l'âme. Et le philosophe ne découvre pas l'âme, il découvre une source d'intériorité, une source d'unité au milieu de toute cette diversité. Et il dit que cette source, c'est bien l'âme dont parlent les traditions religieuses. Pourquoi? Comment peut-il faire cette jonction? C'est quand même une jonction assez grande et une jonction qui devient très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître, il faut bien voir la difficulté dans notre monde d'aujourd'hui de parler de l'âme dans un milieu philosophique. Voilà que des grands philosophes, on ne peut pas nier, quelqu'un comme Merleau-Ponty refuse l'âme, refuse la distinction âme et corps. Et il retombe dans une position qui est constante aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit. Même des théologiens. De la part des théologiens, c'est très grave. De la part des philosophes, on peut dire qu'ils n'ont pas été plus loin, très bien. Mais ils rejettent cette distinction de l'âme et du corps. Et donc, nous avons une difficulté particulière pour nous, et c'est pour ça qu'on doit être très attentif à cette induction. Ce que cette induction peut poser, ce qu'elle ne pose pas. Elle pose une source d'unité, une source d'intériorité, qu'il faut expliquer. Il y a nécessairement une source à toutes ces opérations, puisque c'est toujours moi, c'est toujours je travaille, je pense, je mange, je dors, je m'éveille. Autrement, je ne veux pas expliquer ce jeu. Et alors, je dis c'est bien là pourquoi. Parce que, selon les traditions religieuses, l'âme apparaît comme l'intériorité de ma vie humaine, la source d'intériorité. C'est l'âme qui me permet d'adorer. C'est l'âme qui me permet de remonter à ma source. Et cette âme dont parlent les traditions religieuses, je peux en avoir une connaissance immédiate. Parce que je peux l'aimer. J'ai donc une situation privilégiée par rapport à l'âme. C'est que j'ai une connaissance affective de mon âme. Je peux m'aimer. Et cette connaissance affective de mon âme me permet de reconnaître dans les traditions religieuses quelque chose que j'expérimente. Connaissance expérimentale de l'âme rejoint bien cette saisie philosophique que je fais par l'induction. Donc, notez bien ces trois moments distincts. Tradition religieuse qui parle de l'âme selon des noms différents. Expérience interne, affective. Je suis capable de m'aimer. Je m'aime. Ça, j'en ai l'expérience. C'est pour ça que cette expérience de l'amour qu'on a pour soi est si importante au plan de sa vie. Il fait. saisis ces deux sources, ces deux principes. L'un d'unité, l'autre de diversité. Le corps implique divers organes. La diversité des organes de vie montre la complexité du corps. Et j'ai saisi au point de départ l'unité dans la complexité. Et en découvrant mon âme, je découvre la source de l'unité. Et cette source d'unité, elle est à travers le corps. Elle est dans le corps. Et je saisis alors à ce moment-là, à la fois, l'unité et la complexité. Donc, le grand problème premier pour la philosophie du vivant, c'est la découverte de l'âme. Et aujourd'hui, plus que jamais. Alors, puisqu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, faisons grande attention que le terme de l'induction, c'est un principe, une source vitale d'unité. Et que ce n'est qu'ensuite, je dis, cette source, ce principe, c'est l'âme. y a un problème important pour nous. Et comme ce problème est difficile aujourd'hui, puisque les philosophes contemporains refusent la distinction de l'âme et du corps, donc refusent cette induction, je dois me poser la question en même temps. Pourquoi ils refusent cette distinction ? Autrement, je ne suis pas philosophe de la fin du XXe siècle. Je ne fais pas de l'archéologie en tant que philosophe en disant je veux comprendre l'âme chez Aristote. Non, je veux comprendre l'âme chez moi. C'est mon âme qui m'intéresse, c'est pas l'âme d'Aristote. Parce que l'âme d'Aristote, elle existe encore, elle est vivante, elle est source de vie, mais je n'ai pas de communication directe. Même si j'avais une communication directe avec Aristote qui venait m'éclairer un tout petit peu la nuit, l'intellect d'agent d'Aristote qui viendrait m'éclairer, ce serait une communication extrêmement intéressante. Même là, vous voyez, ce serait quelque chose de purement intérieur, je ne pourrais pas m'en servir au point de vue philosophique. Vous diriez, je ne peux pas vérifier. Vous prétendez, mais c'est peut-être un rêve, c'est parce que vous aimez beaucoup Aristote, alors il est là, présent, effectivement, mais est-ce qu'il est vraiment présent ? Ça ne m'avancerait pas beaucoup au point de vue philosophique. Ça m'intéresserait au point de vue de la réminiscence. Ça m'intéresserait au point de vue des fantasmes. Ce serait très intéressant pour la psychanalyse. Ça ne fait pas partie des archétypes de Jung. Aristote. Pour les aristotéliciens, on pourrait dire que ça fait partie des archétypes. Il y a un archétype particulier. À côté du serpent, il y a Aristote. Victorieux du serpent. Puisqu'il fait découvrir l'être et que le serpent ne touche pas l'être, il ne peut qu'infecter le vivant. Mais il y a quelque chose de plus profond. Alors on aurait un archétype particulier du cerveau de l'aristotélicien. Et ça se marquerait justement dans l'analyse qu'on ferait du sang d'un aristotélicien. Il y aurait chez lui un fondement pour faire naître un archétype. Non, ça n'existe pas. Tout ça, c'est imaginatif. Et c'est très bien, on peut faire cette imagination. Sûrement qu'il y a un petit quelque chose, mais ça ne va pas jusque-là. Alors, pourquoi je peux passer de la source de la vie à la source de l'être ? C'est que la mort me montre qu'il y a une rupture dans la vie. Alors, cette source d'être, et pourquoi ? Un Merleau-Ponty et toutes les séquatchesses de Merleau-Ponty, donc toutes les disciples de Merleau-Ponty refusent-ils la distinction de l'âme et du corps ? C'est parce que pratiquement, ils demeurent dans la description